Ouais, alors je force un petit peu. C'est, nous partons en Afghanistan avec Kefaya et Elaha Soror. Je ne sais pas comment on prononce. Songs of Our Mother.
C'est moi qui
pardon pour le pour l'accent.
La main qui fait sonner l'enclume, la main qui fait chanter la plume, la main qui creuse le sillon, la main qui arme le béton. La main qui nivelle l'air, la main qui referme la plaie, la main qui tisse le coutil, la main qui fait rougir l'outil. La main qui fauche les blés durs, la main qui cueille les fruits mûrs, la main qui coule le ciment, la main qui taille le sarment. La main qui tend, la main qui grasse, la main qui coud, la main qui brasse, la main qui règle le compas, la main qui tient la bête au pas. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. La main qui resserre les taux, la main qui brase les métaux, la main qui fend, la main qui broie, la main qui cloue, la main qui bat. La main qui concasse le grès, la main qui fixe les agrès, la main qui perfore l'acier. La main qui course le clavier. La main qui frappe au cœur des arbres, la main qui façonne le marbre, la main qui plie, la main qui peine, la main qui travaille à la chaîne. La main qui creuse dans la mine, la main qui s'ablaisse aux machines, la main qui souffre et qui se tord, la main qui tremble sous l'effort. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. Mais je crie à qui veut l'entendre, ma confiance en l'avenir, les mains sont faites pour s'attendre, les mains sont faites pour s'unir.
Bonjour, eh bien, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, pour cette nouvelle émission de « Et pourtant, elle existe, cette littérature », émission consacrée à la littérature qui vient d'en bas, et des écrits d'ouvriers, de paysans, d'employés. Et cette émission est réalisée par le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, qui publie notamment Fragments, revue de littérature prolétarienne, et qui a mis d'ailleurs en plus de cette revue en place un secteur édition. Nous venons d'écouter Les Mains de Michel Murti, qui reflète bien, je crois, c'est notre générique, qui reflète bien les orientations, la place du travail dans notre approche de la littérature. je fais une petite parenthèse, hein, il y a un site sur Michel Murti qui est décédé, qui est chanteur, mais qui était aussi peintre et qui vivait en région parisienne dans l'Essonne. Il suffit de consulter sur Internet. Voilà, alors aujourd'hui dans le studio, nous n'avons pas d'invité, nous sommes trois, donc Frédéric, du groupe La Commune de Paris, de la Fédération anarchiste qui est à la technique, et Michel, et moi-même pour la revue Fragment, et le Clops. Alors, au sommaire, donc, nous n'avons pas d'invité parce que les dates ne coïncidaient pas pour les personnes qui étaient pressenties, mais ce n'est que partie remise, hein. Et nous aborderons aujourd'hui plusieurs thématiques. Tout d'abord, une rencontre qui a eu lieu le 14 mars à Cachan. Avec Cachan, je rappelle, c'est dans le cadre du centre d'archives Henri Poulaille. Hein, on en a déjà parlé lors de nos émissions précédentes, hein, qui se trouve à Cachan, puisque il y a eu là-bas, à un moment, un espace ouvert et qui est un peu redynamisé depuis deux ou trois ans. Donc, le thème de cette rencontre, c'était chansons populaires, chansons politiques, autour des archives d'Henri Poulaille à Cachan. Donc, c'était la deuxième initiative, puisque la précédente avait eu lieu un 14 décembre 2022. Ensuite, nous présenterons succinctement, parce que nous aurons l'occasion d'y revenir, le colloque qui est organisé par notre revue le 8 et 9 juin à Paris, à la GK, autour du centenaire de la naissance de Michel Ragon. Et initiative donc nous organisons en tant que regroupement et que revue Fragment, mais qui a un certain nombre de soutiens dont nous allons parler. Nous parlerons également de quelques livres dont nous recommandons la lecture, et succinctement nous verrons des éléments du prochain sommaire de la 9e livraison de Fragment, qui paraîtra pour ce colloque précisément, donc fin mai, début juin. Enfin, Michel, comme à l'habitude, nous parlera de 5 expositions qui auront lieu au Palais de Tokyo jusqu'au 30 juin 2024. Alors, je cite hein, les thématiques. Mohamed Bourouissia, Dislocation, qui regroupe des artistes de différentes origines. Pasque disquier ou passé inquiet. Toucher l'insensé. Et Chloé Bensahel, donc 5 types d'expositions de présentation. Voilà, donc pour notre rendez-vous de mars 2024. Alors je vais attaquer, si j'ose dire, par rapport à ce colloque, hein, cette réunion, cette journée d'études en fait, qui est organisée par le centre Poulaille à Cachan, et particulièrement par Constance Barbaresco, de l'École des hautes études sociales, et Samia Meyers de l'Université de Strasbourg. Ça a eu lieu donc le 14 mars, donc la semaine dernière exactement, il y a 8 jours, et je voudrais vous parler un peu des thématiques qui ont été abordées, parce que c'est intéressant de pourquoi en reparler alors que c'est passé, mais parce que ça illustre, je crois, la richesse du centre Poulaille, qui comprend beaucoup d'éléments, des livres de sa bibliothèque, des revues, les siennes, mais aussi d'autres de l'époque, mais aussi des documents qui concernent la littérature en général, qui concernent la peinture, qui concernent la gravure, et qui concernent, pour ce colloque, la chanson. Parce que Poulaille, de manière continue, s'est intéressé aux chansons populaires, au folklore, et ça a alimenté d'ailleurs ses écrits, à la fois dans ses romans, d'ailleurs, comme ça a été montré, j'en dirai deux mots, et ses romans, mais aussi les revues qu'il animait, notamment, je pense, à Nouvel Âge, qui est paru en 1931, il y a eu 12 numéros, hein, il y avait un numéro par mois. Mais on reviendra sur ces revues, je l'ai dit depuis un moment, mais c'est vraiment là aussi une mine d'informations sur la littérature prolétarienne, qui n'est pas simplement un courant qui a existé en France ou dans des pays francophones, hein, comme la Belgique, hein, où il y a eu des choses intéressantes, même en parallèle, disons, au groupe d'écrivains prolétariens, mais dans plusieurs pays et sur plusieurs continents. Et ça, on y reviendra. Donc, comme intervenant, nous avions une approche qui est très intéressante. En plus, c'est repris dans un livre. C'est une approche de Philippe Dariula, qui est de Sciences Po Lille, qui s'appelle, le titre de son intervention, c'était Une voix d'en bas, chanson, identité ouvrière et politisation de Béranger à Eugène Potier.
Ah oui.
Donc ça, c'est quelque chose qui vaut le détour. Mmh. Et en plus, ça permet d'avoir des repères un peu sur comment la chanson, comment la chanson à l'époque se développer, hein, déjà de manière orale, et ensuite avec l'apparition de fascicules, hein, toute l'importance à l'époque du camportage, et il y avait vraiment beaucoup d'informations utiles, enfin pour, en tout cas pour moi, qui m'ont été utiles, qui sont comment aussi, dans le développement de la chanson à l'époque, elle est associée à la révolte populaire, hein, c'est ce qu'il a mis en avant. Et avec aussi tout cet aspect que le chant, qui est comporté au travers du pays, est considéré dès la Restauration comme une menace.
Oui.
Hein, et il cite ainsi Élie Decazes, qui est un préfet de police, qui rédige le 15 décembre 1815 une circulaire qui précise la nécessité de mise sous surveillance des chanteurs de rue, comme des comporteurs itinérants. Hein.
Oui, c'est ça.
Des gens qui se déplacent, qui disent des choses, qui chantent. Ils sont suspect. Donc, et il donne comme consigne, en gros, hein, je résume, vous les intégrez ou vous les muselez. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Il parle aussi la méthode des chanteurs de rue, mais aussi des goguettes, hein, qui sont des établissements, des sociétés chansantes, en fait, qui se réunissent à l'époque chez un marchand de vin. Il y a un peu un espace consommation, mais à côté, il y a une salle où chacun peut présenter au public une chanson de sa composition. C'est un peu une forme de... je ne dirais pas que ça renvoie, pour faire une comparaison, je ne sais pas si c'est juste, mais au slam aujourd'hui, où des gens vont des fois dans des lieux consacrés à ça et présentent ce qu'ils ont écrit. Ou voilà. Donc, et en plus, il y a un autre aspect qui n'est pas inintéressant, c'est que dans ces sociétés, on met en place des caisses de solidarité ouvrière, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de droit d'auteur, hein. Et voilà. Et c'est seulement à partir de 1830, donc la Monarchie de Juillet, que la chanson fait l'objet de petites publications, fascicules, recueils, almanachs, qui sont comportés de localité en localité, avec toujours la surveillance de ces gens un peu bizarres qui se déplacent, qui discutent. Et ils seront interdits en 1849 par le Parti de l'Ordre, interdiction des chanteurs de rue et des goguettes. Et ça donnera... Ça sera remplacé, hein, parce que on peut interdire, mais une autre chose surgit, et ça sera les cafés-concerts qui vont remplacer ça. Ensuite, il y a eu d'autres interventions de François Ganneau, par exemple, qui a traité de l'intérêt de Poulaille pour la chanson populaire, et il a montré tous les documents, parce que pour ceux et celles qui peuvent aller au centre Cachan, il faut prendre rendez-vous, mais ça permet de visiter, et on constate... Il y a quelque chose d'assez émouvant à voir le nombre de classeurs, des découpages que faisait Poulaille. Il y a une manne d'informations qui sont intéressantes. Et donc, il a resitué un peu cette question, les interventions à la fin des années 30 de Poulaille sur ces thèmes-là. Mais ça a même été diffusé précédemment dans les revues de Poulaille dès les années 30, puisque dans les revues de Poulaille, on trouve déjà tout ce qui s'intéresse aux coutumes populaires, au folklore et surtout aux chants populaires qui ont lieu dans d'autres pays. Ça me semble assez bon. Hein. Il y a les coplas populaires espagnols, ça c'est en 31, la chanson populaire mexicaine, les chants des filatures du sud pour les chants de coton, enfin il y a tout ça. Une intervention aussi très pertinente, j'ai trouvé, de Julia Ribeiro-Tomás, qui est de l'Université de Londres, qui a abordé Poulaille à travers des thèmes intéressants. Le titulé de son intervention, c'était « Poète de guerre sans poème de guerre ». Et c'est à partir de la lecture de Pain de soldat, où elle a montré comment, dans le récit, s'inséraient les chansons et les poèmes. Et nous avons également eu une approche fouillée de la chanson dans les écrits d'auteurs prolétariens. C'est celle de Lee Lambert, qui elle est à l'EHSS, hein, et qui a pris comme thème de son intervention les chansons, le chant, la voix et le monde sonore dans l'ouvrage de Marguerite Audoux, L'atelier de Marie-Claire, hein, Marguerite Audoux, qui a écrit Marie-Claire et qui a failli avoir le Goncourt, qui était soutenu par Octave Mirbeau, hein, rappelons-le. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que Lee Lambert effectue un travail qui, à l'avenir, sera sans doute précieux, parce qu'elle a pris comme sujet les écrits prolétariens de femmes. Hein, je cite notamment Henriette Vallée, dont nous avons déjà parlé, mais aussi d'autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler et développer. Mmh. Hein, on essaye de le faire au niveau de la revue, mais il y a, je pense, encore des espaces à déchiffrer. Enfin, nous avons eu une présentation, je vais pas tout vous relater ici, mais des présentations par Marie-Anne Forain du collectif Maison Raspail, qui est un groupe qui s'appelle UT en chœur, et c'est un regroupement de personnes qui chantent, notamment lors des mobilisations sociales, et nous avons eu même droit à quelques chants en direct, notamment quelques couplets du chant des sardinières de Douarnenez, hein, qui est, je me rappelle, hein, c'est le centenaire de la grève de ces femmes, et je rappelle l'ouvrage de Cathy Tarque, hein, sur cette question. Voilà. Ensuite, on a eu aussi, c'était Jean-Christophe Marty, compositeur, lui, et qui œuvre avec le groupe pour essayer de mettre en voix des textes à partir des archives musicales de Poulaille. Donc, c'était un peu un curseur qui était mis sur un aspect d'activité Poulaille qu'on n'aborde peut-être pas assez, ou qu'en tout cas, que nous, on n'a pas eu le temps de travailler, et puis on peut pas être complet sur tout, et c'est une approche complémentaire avec d'autres études. Voilà. Et petite anecdote quand même, parce que ça on peut retrouver aussi, c'est Henri Chamou qui a mis, c'est un site qui s'appelle Phonobase, et lui il a travaillé sur les archives d'avant 1914, c'était des cylindres qui enregistraient la voix, les chants, et c'est en consultation libre, et vous pouvez aller voir. Ça c'est, bon, il était ingénieur, et il a fait un recensement des répertoires populaires français de la machine parlante 1893-1925. Voilà, il me semble que c'est l'espace de sauvegarde d'archives sonores qui est intéressant à citer. Le soir, il y a eu un concert avec le groupe Pollyanna, mais personnellement, je n'ai pas pu y assister. Adieu Misère, Chant du Travail de France, et d'ailleurs, et ce groupe était déjà intervenu fin 2022, et c'est assez intéressant ce qu'ils font. Voilà, donc ça, c'était pour la journée du 14 mars 2024. Et donc, je crois que nous allons faire une petite pause musicale en écoutant un titre de Jamais un peu bancal.
Des ratures tatouées sur le cœur, les pieds au bord d'un gouffre immense, une vie qui s'ébauche au marqueur. Une souillure indélébile venue entacher l'innocence, a piétiné mon corps débile en le maculant de souffrance. Je marche un peu bancal, gardant le silence. Je marche un peu bancal, mais j'avance, j'avance, j'avance. J'ai compris que j'avais perdu l'enfance qu'on m'a estropiée à sa sordide mise à nu, le cœur et le corps écœurés. Je suis comme l'arbre tordu à l'évolution contrariée, et j'ai aimé comme j'ai pu, de mes étreintes atrophiées. Je marche un peu bancal,
un peu bancal,
en gardant le silence. Je marche un peu bancal,
un peu bancal,
mais j'avance, j'avance, j'avance. Au fond de ma gorge, il y a le goût amer d'une madeleine que ronge vermine zéra sur le tas d'ordures de la haine, dont j'ai quelques relents parfois et gonfle les gouttes de peine sur l'enfant que j'ai laissé là, se laver la nuit dans les veines. Le silence. Je marche un peu bancal,
un peu bancal,
mais j'avance, j'avance, j'avance. Et l'astre d'où je suis tombé, je me fous de qui l'a éteint. Je viens juste de m'éveiller, chaque nuit a son lendemain. Une brise est venue souffler l'étincelle d'un rire de gamin sur la fenêtre ce matin. J'ai vu le printemps se poser.
Je marche un peu bancal,
un peu bancal,
en gardant le silence.
Je marche.
J'avance, j'avance.
Je marche un peu bancal,
un peu bancal,
en gardant le silence.
Je marche un peu bancal,
un peu bancal,
mais j'avance, j'avance.
Bon, nous sommes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, et en présence des personnes du Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale qui anime l'émission, et pourtant elle existe, cette littérature consacrée à ces écrits qui viennent d'en bas. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui là, en parlant quelque peu de notre... de ce qui nous mobilise depuis plusieurs mois, il faut le dire, parce que nous allons faire donc un colloque consacré à Michel Dragon, puisque c'est le centenaire de sa naissance en 2024. Alors, il y a déjà eu plusieurs rendez-vous, hein, il n'y a pas que nous qui avons cette démarche, il y a eu une exposition sur Fontenay-le-Comte, il y a des choses autour, puisque c'est en Vendée qu'il a vécu son enfance, sur Nantes, hein, il y a un certain nombre de choses qui se développent, il y a des films qui passent ici ou là, ou qui vont passer ici ou là, et en ce qui nous concerne, nous avons choisi il y a plusieurs mois de consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour ce colloque, puisqu'il a la particularité, je pense, d'être un colloque complètement autogéré, de A à Z, et ce qui implique une forte mobilisation à la fois de notre association, puisque nous on a évidemment des gens qui sont adhérents, hein, et aussi des abonnés à la revue, et il y a des relais qui sont un peu partout en région parisienne et sur le territoire, même si on touche pas tous les endroits, mais enfin il y a une forte mobilisation de ce qui nous réunit autour de Michel Dragon. Alors, et c'est autogéré, parce que pour l'instant, on essaye de autofinancer complètement et d'avoir des participations assez larges, pertinentes, pour essayer le plus possible d'approcher la réalité de la démarche qui a été celle de Michel Ragon, qui est à la fois littéraire, mais aussi artistique. Et je vais revenir en parlant un peu du programme. Donc, il y aura au programme Sarah Matari, qui est universitaire, maîtresse de conférence en littérature à l'Université de Lyon 2, que nous avons déjà reçue sur Radio Libertaire pour évoquer à l'époque l'exposition consacrée à Ragon au Musée d'Histoire Vivante de Montreuil. Nous aurons... son intervention sera sur Michel Ragon et le savoir. Ensuite, nous aurons bien sûr Thierry Maricourt, qui a écrit récemment, qui a publié récemment aux éditions de l'Échappée une rage de lire sur Michel Ragon jeune, qui va aborder Michel Ragon libre et libertaire. Une possible intervention sur l'architecture, mais il faut qu'on confirme. Ensuite, on aura, je ne vais pas vous donner l'entièreté des intervenants, Justine Mangeant, qui sera, dont le thème sera Lecture croisée, Les mouchoirs rouges de Cholet et 1793, L'insurrection vendéenne et les malentendus de la liberté. Une intervention théâtrale en soirée, hein, puisque c'est sur deux jours, avec Abby Patrix. Une intervention de Michel, ici présente, qui est consacré à Michel Ragon, historien de l'art, d'après son livre, Gustave Courbet.
Et Giuseppe et Sylviane. Et Sylviane s'accompagne.
Sylviane s'accompagne, voilà, qui vont intervenir sur cette question, avec des lectures, hein, je crois que c'est ça.
C'est ça.
Harry Bellet, l'art, pourquoi faire. Sylvain Boulou, qui interviendra normalement sur Correspondance de Michel Ragon avec des anarchistes. Patrick Verdun sur les réalités virtuelles des rencontres amicales de Michel Ragon. Et Patrick Verdun, je signale, qui a une documentation, qui fait un travail extraordinaire de documentation sur tous les écrits de Michel Ragon. Didier Deningue sur Michel Ragon et les chemins de traverse de la littérature. André Derval, qui viendra nous fournir, il vient de sortir un livre aux éditions Albin Michel et des éléments biographiques de l'itinéraire de Michel Ragon. Et personnellement, je devrais intervenir sur Michel Ragon et mai 68. Alors ça, c'est pour l'ossature, on va dire, des interventions. Il y aura aussi, entre ces différentes communications, un espace réservé, bon, peut-être assez court, parce que il y a pas mal de personnes. Ce que je vous ai exposé là est provisoire, ça va être complété, mais il y aura des lectures d'extraits d'ouvrages de Michel Ragon par Laurent Gelin, Martine Minarovitz et Florence. Voilà, ça c'est des pauses lectures. Une lecture théâtralisée d'extraits de La mémoire des vaincus par Christophe Carassou, qui est comédien. Et il y aura aussi une salle qui est réservée à la projection de films, passage en continu de films de Bernard Bessa, Itinéraire de Michel Ragon, et de celui de Jean-François Giret, Itinéraire d'un autodidacte. Les projections seront annoncées en préalable, aux réunions, etc. On devrait pouvoir... voilà. Et il y aura aussi une librairie et un certain nombre d'invités. Voilà, à peu près ce que je voulais dire aujourd'hui sur ce rendez-vous. Et voilà, donc ensuite, je signale, après l'intervention que nous avons faite avec Thierry Maricourt à Publico au mois de février, je crois, février ou janvier, je ne sais plus, pour présenter Fragments et le livre de Thierry, nous avons une rencontre qui est prévue le 27 février, à la librairie La Flibuste, à Fontenay-sous-Bois, à 14h30.
Hein, c'est
Jean-Jacques Rousseau. 27 avril, pardon.
Oui, voilà, c'est ça.
27 avril, j'ai dit 27...
février.
Non. Je remonte le temps. Non. 27 avril, à 14h30, à la librairie La Flibuste, pour... On a déjà fait une intervention, comme à Publico, pour un peu présenter la revue, le livre de Thierry Maricourt et le livre qu'on a édité aussi, hein, Nous sommes 17 sous une lune très petite de Michel Ragon, hein, donc c'est une réédition, on a déjà présenté ici, je le signale pour ceux et celles qui sont dans la région parisienne qui vont se le procurer, que le stock qu'on avait mis en vente à Publico sera renouvelé normalement aujourd'hui, et donc on pourra à nouveau se le procurer, puisqu'il rencontre un écho quand même assez positif, hein, à la fois pour les personnes qui sont intéressées par Michel Ragon, mais aussi comme témoignage de ce qu'a été la lutte anticoloniale et anti-impérialiste dans les années 50-60 sous une forme romanesque. Voilà. Alors, je crois que nous allons faire une petite pause musicale en écoutant Aux copains du chat noir. C'est un texte de Jules Vallès qui est chanté par Jean-Luc de Baptiste.
L'autre soir, à l'heure de la verte, je suis entré dans votre cage à perroquet pour en étrangler un. J'aurais bien dû les étrangler tous. Le poète qui ressasse dans son gros bec toutes les foutaises du cliché, le peintre sempiternel aux pinceaux estropiés par les vieilles cisailles de l'école et le musicien de barbarie qui promène son prix de Rome comme un écriteau d'infirme. De la blague, tout cela, camarade. Car pendant que vous chantez le bleu, les autres broient du noir, et pendant que vous faites de l'art, d'autres font de la misère. Tas de pitres en redingote, dont les boniments couvrent comme l'orgue de Fualdès les clameurs des assassinés. Eh bien non, tête vide, ventre de son. Il n'y a pas que Montmartre, le moulin de la galette n'est pas la clé de voûte de l'édifice social. Il y a encore les écoles et les maisons de fous où l'on broie les cervelles, les usines où l'on écrase les muscles, farines épouvantables, pâtes humaines que pétrissent à leur gré la bureaucratie et le capital. Des soupiraux de la vieille bâtisse où nous logeons. Jusqu'à ce qu'on la démolisse, sortent les hans des boulangers en train de battre de l'homme. Poète, mets ce cri dans tes vers. Peintre, trempe tes pinceaux dans ce sang. Musicien, note le bruit de cet écrasement. Au-dessus de votre art, il y a la question sociale. Et au-dessus de votre cabaret Louis XIII, il y a l'église du Sacré-Cœur qui grandit sur vos crânes. Que la pensée qui est dedans éclate comme une mine en voyant au diable des morceaux de Jésus sanguinolent. L'heure est venue où toutes les idées doivent être tranchantes, comme des épées. Dans cet air orageux et rouge où grondent les révoltes prochaines, le je m'en foutisme ne saurait vivre. Copain Salis, transportez donc pour voir votre carriole d'arracheur de boc sur le bord de la grande Seine jaune. Ça sera bien le diable si vos poètes ne sentent pas passer dans leurs cheveux un vent de colère en écoutant la voix du fleuve, ce cimetière qui marche. Eût dit Pascal. Un soir, je vous le prédis, les vers, les musiques et les pinceaux s'arrêteront hagard, au cri suprême d'un suicidé.
Eh bien, nous reprenons le cours de notre émission, et pourtant elle existe, cette littérature, sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni nationalité. Alors, après avoir abordé un peu nos projets pour le mois de juin sur le colloque consacré au centenaire de la naissance de Michel Ragon, je vais vous parler de deux ouvrages qui nous semblent intéressants à signaler avant de ensuite laisser la parole à Michel pour la partie exposition artistique. Alors, le premier bouquin dont je voulais parler, c'est « Frères noirs », suivi de « Vue sur l'Amérique » de Madeleine Paz. Alors, c'est un livre qui vient d'être réédité dans la série Précurseurs et militants aux éditions Plein Champ. Et c'est donc une réédition d'un livre qui est à l'origine paru en 1931. Et dans la revue Poulaille, dans le numéro 7, puisque c'est un mensuel, numéro 7 de juillet 31, il y avait une chronique sur ce livre qui était présenté. Alors, tout d'abord, peut-être rappeler qui est Madeleine Paz. Hein. Madeleine Paz a été une militante politique, elle était libertaire, féministe, syndicaliste révolutionnaire, communiste, membre de l'opposition de gauche trotskiste et socialiste. Elle a pas mal évolué. À un certain moment, elle a eu, mais après elle est un peu revenue sur ses positions, eu des positions, on va dire, discutables, même hostiles à Panayis Tistrati. Mais bon, ça, c'était dans le cadre des campagnes que menait à l'époque le Parti communiste contre Panayis Tistrati, après l'avoir encensé. Alors, revenons à nos moutons. Frère Noir, donc, publié en 1931, et il y avait la chronique qui le présente dans la revue de Poulaille. Elle est faite par Flavien Léopold. Qui est Flavien Léopold? C'est un poète martiniquais. D'ailleurs, qui a quelques pages qui sont régulières de lui dans les revues de Poulaille, qui va ensuite se spécialiser, devenir prof d'anglais, et je crois qu'il a enseigné ensuite à Albi. Mais il a fait, à l'époque, il fait tout un travail sur la question de l'oppression de la population noire. Donc, il est très attentif à la question de l'esclavagisme, du racisme, et il salue alors le mérite de Madeleine Paz, qui est de provoquer la colère du lecteur en montrant l'homme blanc prisonnier de l'intérêt le plus sordide. Et donc, il dit, il est en effet nécessaire de porter le regard du côté de la chair méprisée et sanglante. Il dit, Madeleine Paz a su voir clair dans l'époque et s'échapper par la générosité d'une vision qui se refuse à toute du prix aux choses trappes de l'égoïsme. Et alors, bon, pour bien situer quel est le témoignage qu'apporte Madeleine Paz, c'est la condition, d'un point de vue historique, remonte aux sources de la situation des travailleurs et des travailleuses noires aux États-Unis et toutes les pratiques d'oppression et de répression. Alors, il y a la répression, on va dire, étatique, mais il y a aussi tout ce qui se passe de manière spontanée parmi les populations blanches, notamment du Sud, et qui ne sont pas l'apanage du Ku Klux Klan. C'est ça qui est important à voir. C'est-à-dire que régulièrement il y a des lynchages dont elles rencontrent là, qui ne sont l'œuvre. Ça se passe non pas la nuit, comme on a tendance un peu dans le mythe du Ku Klux Klan, où on voit des gens dans leurs costumes blancs et leurs cagoules. Ça se passe à visage découvert, en pleine journée, et avec des gens du coin, des fermiers, etc. Ça, c'est un des premiers points. Il y a tout un travail historique qui a été fait, donc je pense qu'il faut saluer cette réédition. Et, je vous ai dit aussi sur Madeleine Paz, pour un peu compléter, elle a quand même participé à la défense de Victor Serge quand il était retenu en URSS. Mmh. Mobilisation contre la guerre et aussi contre l'antisémitisme. Et tout un travail aussi sur les travailleurs immigrés et le combat pour le droit d'asile. Quand on voit un peu les axes de mobilisation de Madeleine Paz, malheureusement, on voit que toutes ces thématiques restent d'actualité.
Oui.
Alors, un point aussi que moi j'ai découvert dans ce livre, c'est que il y a la répression les pogroms qui sont faits de manière spontanée par la population, mais il y a aussi des affaires que, en tout cas moi je ne connaissais pas, sur comment en dehors des lynchages, entre 1890 et 1900, il y a 1665 lynchages qui sont recensés, pour donner une idée. Et elle met en avant aussi des affaires judiciaires qui sont montées de toutes pièces contre des militants de la communauté noire. Donc, parce qu'on parle Sacco et Vanzetti, ok. Mais il y a eu d'autres campagnes internationales, y compris en France, sur un certain nombre de procès montés de toutes pièces, c'est-à-dire des gens qui étaient innocents et dont on essayait de se débarrasser. et aussi des syndicalistes. Hein. Par exemple, il y a Tom Monnet, qui est un syndicaliste cheminot, et qui va purger un certain nombre, parce qu'il fallait à tout prix, il était en train d'organiser ses collègues de travail, il faut à tout prix le liquider, parce qu'on est sur une montée de l'organisation syndicale. Et là, tout est bon, bon, il sera ensuite libéré, mais il continuera après à faire tout un travail en faveur des victimes d'injustices flagrantes. Hein. C'est des injustices étatiques. Hein. Bon, on sait que c'est une tradition du FBI hein, et qui ne s'est pas arrêtée dans les années 70. Je rappelle, il y a des mouvements, notamment mouvement indien, les communautés qui ont été bombardées par hélicos. Hein. C'est bon, il y a les Black Panthers, hein, les provocations. Je rappelle Léonard Peltier, etc. Bon, voilà. Pour ce qui concerne ce livre Frères Noirs. Donc, il faut signer aussi en annexe une notice biographique qui comprend toutes les traductions faites par Madeleine Paz. Et cette liste a été établie par Jean-Paul Morel. Jean-Paul Morel, je rappelle, c'est un des fondateurs des cahiers Henri Poulaille. Voilà. Et qui est toujours. Sur le front. Un autre livre qui est intéressant à lire, il faudra qu'on revienne sur Louis Guillou. Louis Guillou, originaire de Saint-Brieuc, est publié chez Folio, sa correspondance avec Albert Camus, entre 1945 et 1959. Voilà, c'est un livre qui vaut le détour. On apprend plein de choses sur les réflexions, les états d'âme, je dirais, des auteurs confrontés à la création, à les doutes. Il y a une lettre où Camus, il se dit « J'ai raté un livre avant qu'il soit publié, et ce livre, c'est la peste. » Et truc, bon, il y a puis aussi... Bon, c'est l'histoire d'une amitié aussi. Hein. C'est bon, Louis Guillou est plus âgé que Camus, à une quinzaine d'années. Et bon, pour rappel, mais je pense qu'on reviendra dans les colonnes de fragments et peut-être ici au cours de l'émission sur le travail de Louis Guillou. Hein. Il a participé, il maîtrise l'anglais, donc il a fait un travail de traducteur. Je sais plus si c'est Arte ou La 5 qui avait passé un extrait, une adaptation de Okey Joe. Hein. Okey Joe, c'est quoi? C'est à la Libération, il est sur Saint-Brieuc, il y a le débarquement, et Louis Guillou, il fait interprète. Et il va être interprète des procès, parce qu'il y a une partie dans l'armée américaine qui débarque, il y en a une partie qui reste sur place. Et les gens qui restent sur place, c'est les soldats noirs, qui sont plutôt chargés de la logistique, etc. Et il y a des faits divers, il y a des viols, il y a des choses qui se passent, et donc il y a des procès, et Okey Joe, c'est un peu la narration de dans ce livre, des procès, et des injustices aussi, par rapport à la... Beaucoup de ceux qui sont, la plupart de ceux qui sont jugés, exécutés, pendus dans les rues, hein, c'est bien sûr des soldats noirs. Hein. Il y a une espèce de mansuétude pour d'autres choses qu'on n'explore pas. Donc c'est Louis Guillou qui était à l'époque, qui écrit ce bouquin. Et il a écrit aussi Sang Noir hein, et Le Jeu de Patience. Le Jeu de Patience, c'est une chronique sur la ville de Saint-Brieuc, mais je crois qu'on y reviendra parce que. Il a aussi des échanges avec Poulaille, etc. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout signalé. Si, peut-être un dernier livre, c'est un livre qu'on diffuse, hein. On peut nous contacter, nous, je rappelle, en écrivant à l'émission « Et pourtant, elle existe, cette littérature », 145 rue Apublicot, à 145 rue Amelot. On peut nous contacter et nous commander aussi des ouvrages. On diffuse aujourd'hui je pense qu'on doit être pratiquement les seuls, parce que c'est un ouvrage assez ancien, paru aux éditions Plein Champ. C'est le Plein Champ numéro 68, c'est Émigratier, un bricoleur inspiré, et c'est un dossier rassemblé par Joey Risco, pardon. Et c'est vraiment un livre passionnant qui nous fait découvrir un représentant de l'art brut. Et Émile Ratier, c'est un paysan. Alors, dans un des futurs numéros, je pense que ça sera le numéro 12 de Fragments, on fera une présentation un peu des auteurs paysans en littérature, on fera un dossier, y compris de paysannes aussi, hein, comme Marcel Delpas, qui est complètement ignoré. Donc, Émile Ratier, c'est un paysan, c'est un rescapé de la Première Guerre mondiale, et qui, vers les 65 ans, se trouve frappé de cécité. Et lui, qui a toujours aimé travailler le bois, va alors se consacrer à la création d'œuvres artistiques. Cette démarche a lieu en marge, c'est dans une remise obscure, située dans une ferme dans le Lot. Et un jour, il y a une visite un peu fortuite de Bernadette Bourus, qui est une tisserande de la région, qui découvre ce travail. Cette femme, qui connaissait l'activité de Jean Dubuffet en faveur de l'art brut, a immédiatement pressenti l'intérêt de cette création. Le bouche à oreille a fait le reste, et Dubuffet achètera une partie des œuvres d'Émile Ratier, qui rejoindront la collection d'art brut, logée à l'époque rue de Sèvres, à Paris. D'autres créations seront présentées dans la capitale par Caroline et Alain Bourbonnet, où ils ont fondé un espace dédié à l'art brut, l'atelier Jacob. Voilà.
Et donc, on peut voir les œuvres, ces œuvres exposées au Centre d'art brut à Lausanne, puisque Dubuffet a ensuite exposé toutes les œuvres à Lausanne. Voilà. Et effectivement, il y a ces œuvres.
Voilà, et dans ce numéro de plein champ, ce numéro 68, consacré à Émile Ratier, il y a aussi un dossier très intéressant de Jérôme Radevant. Jérôme Radevant, qui est décédé fin 2021, qui était parti, qui avait rejoint notre petite équipe, qui était un des animateurs des cahiers Henri Poulaille, qui a vraiment écrit beaucoup de choses pertinentes. Il y a un bel article de Jérôme Radevant, Le Nouvel Âge d'Henri Poulaille et de Jean Toussaint. Et il y a une rubrique, ce vieux numéro qui date de 1999, une rubrique Voix d'en bas qui est signée Philippe Genestre et Daniel Roy. Philippe Genestre qui publie une histoire de la littérature prolétarienne de 70 à 2020-22 dans Fragments. Il y a aussi des gravures de Raymond Kepetz, fera qu'on y revienne aussi. Voilà. Donc je voulais citer un peu ça. C'est un ouvrage qu'on peut se procurer en écrivant auprès de ou des éditions Plein Champ ou auprès de notre émission. Voilà. Le port est gratuit, c'est 11 euros le prix de ce livre. Voilà. Mais on y reviendra sur ces créateurs issus de la paysannerie d'hier et d'aujourd'hui, parce que faut pas considérer, c'est un de nos slogans essentiels, c'est que pour nous, la littérature prolétarienne ne se conjugue pas qu'au passé, n'en déplaise à certains qui voudraient dire que c'est quelque chose qui était très bien, mais que c'était hier. Non. Il y a aujourd'hui des auteurs, on a édité François Lebert, je le rappelle, notre premier bouquin, Ligne de front, qui est bien vivant, en chair, en os, qui était ouvrier dans l'automobile. Voilà. Alors, je vais donc passer... On va faire une petite pause musicale, et ensuite, nous passerons la parole à Michel. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute de l'émission. Et pourtant, elle existe, cette littérature consacrée à la littérature qui vient d'en bas. Alors, nous venons d'écouter Duke Ellington, Rockin' Rhythm. Et après cette plage musicale, nous allons aborder maintenant la partie exposition. Donc, je passe la parole à Michin qui va nous parler du Palais de Tokyo.
Le Palais de Tokyo, c'est ça. Je vais vous présenter 5 expositions qui ont lieu en ce moment et jusqu'au 30 juin 2024. Alors, la première s'appelle Signal. Elle est sur l'artiste Mohamed Bourouissa. À partir d'expériences intimes, l'œuvre de Mohamed Bourouissa dresse des récits collectifs puisés aux racines de l'amertume. Enfermement des corps et des pensées, représentation des identités, détermination et contrôle des langages, soins par les plantes, la musique et la couleur, économie parallèle, aliénation et résistance. Donc l'exposition présente une partition de sons, dessins, photographies, fils, sculptures, aquarelles, plantes, musique expérimentale. C'est vrai qu'au Palais de Tokyo, ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien sur l'art contemporain, donc qui revêt plusieurs formes et plusieurs médias. Du cri au silence, en passant par le murmure des fantômes du colonialisme, l'exposition nous conforte au sensible, comme une tentative d'échapper à ce qui nous intoxique. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a de quoi faire. En 2008, lors d'un séjour en Algérie à Blida, sa ville natale, Mohamed Bourouissa se rend pour la première fois à l'hôpital psychiatrique Frantz Fanon, accompagnant une tante qui y travaille. C'est ici que le psychiatre, écrivain, penseur et militant anticolonialisme Frantz Fanon exerça en tant que médecin-chef juste avant l'indépendance de l'Algérie, entre 1953 et 1956, et marqua profondément l'histoire de cet hôpital en développant une ethnopsychiatrie culturaliste révolutionnaire. Mohamed de Bourouissa y reviendra à plusieurs reprises et réalise des portraits photographiques des pensionnaires qui sont très beaux. Cette rencontre avec le lieu et les habitants sera pour lui à l'origine d'une recherche artistique d'ampleur qui va poursuivre pendant plusieurs années. Alors, ce qui est intéressant aussi dans son exposition, c'est que Mohamed Bourouissa connaissait le peintre Abdelmajid Mehdi, qui avait complètement disparu, en fait. Donc, il a demandé au palais de Tokyo de le rechercher. Ils sont partis tous les deux à la recherche. de ce peintre, qui en fait était un artiste sans abri qui vivait dans la rue depuis plus de 15 ans. Lorsqu'une journaliste de Brut, qui est une revue, le rencontre il y a un an, Abdelmajid Zmedi lui parle de Sherazade, son ange gardien qui l'a aidé à sortir de la rue. Depuis, il a trouvé un logement, et donc, plus encore, le palais de Tokyo, donc, lui fait exposer ses œuvres à côté de Mohamed Bourouissa. Ce qui est quand même une histoire, moi, j'ai trouvé assez extraordinaire, une histoire aussi d'amitié, de fidélité, et qui est très belle, voilà. Et l'artiste, donc Mohamed Bourouissa, Abdelmajid Mehdi, dit de ses années dans la rue, je ne cessais jamais de produire jour et nuit, c'est mon sang, c'est ma nourriture, c'est mon sommeil, je passe ma vie à créer, à créer. Donc littérature, peinture, poésie, photographie, sculpture, allons-y, parce que en fait c'est la vie, c'est ce qui nous dit hein, à travers tout ça, et c'est ça qui nous fait vivre avant tout. Voilà. La deuxième exposition.
Pardon, c'est une exposition permanente ou c'est il y a des dates pour
C'est jusqu'au 30 juin 2024. Mais en ce moment, toutes les expositions, elles sont là depuis le 16 février.
D'accord.
Voilà, donc vous pouvez aller les voir jusqu'au 30 juin. Ensuite, la deuxième exposition s'appelle Dislocation. C'est une exposition qui réunit 15 artistes de générations et d'origines différentes. Donc Afghanistan, France, Irak, Iran, Liban, Libye, Myanmar. Alors j'ai appris que c'était l'ex-Birmanie, la Palestine, la Syrie et l'Ukraine. Donc bien sûr, ils sont tous en exil et presque tous vivent à Paris, là, en ce moment. Tout leur travail est marqué par l'expérience de l'exil, du déchirement entre ici et ailleurs, entre passé et présent. Leurs pratiques sont issues des savoir-faire ancestraux et des technologies contemporaines. Gestes humbles et matériaux pauvres. C'est vrai que c'est super intéressant de voir d'autres artistes avec d'autres cultures. C'est ce que disait Raphaël sur la littérature. Il faut pas qu'on se concentre que ce qui est sur l'Hexagone. Il y a des apports ailleurs qui sont très intéressants. Et là, on est vraiment sur des techniques et des matériaux qui sont peu développés en France, en fait. Hein. Donc, il s'agit ici, dans cette exposition, de rendre hommage à la nécessité vitale et à l'intensité de la création artistique à travers des récits croisant déplacement, emprisonnement, guerre, mais aussi résilience et réparation. Là aussi, on a de quoi faire en ce moment, et je pense qu'il faut pas oublier cet horizon-là, en fait. Dans un moment où l'actualité géopolitique internationale présente des espaces en crise, les artistes peuvent apparaître comme des vigies attentives aux soubresauts du monde et aux mouvements de la société. Être une vigie, c'est être un témoin de son temps, déployer la puissance de son imaginaire en explorant les réalités sociales et politiques d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le Palais de Tokyo et l'association Porte Ouverte sur l'art, qui fait connaître des artistes en situation d'exil. C'est pour ça que presque tous se vivent à Paris, en fait, hein, pour l'instant. L'objectif de cette association Porte Ouverte sur l'art est de promouvoir et diffuser le travail de ces artistes en collaboration avec le milieu de l'art, donnant lieu à des expositions et des événements dans divers lieux de la France. En fait, après, ils vont se balader un peu partout. Donc, quelle que soit la région que vous habitez, essayez d'ouvrir grand vos yeux et vos oreilles pour voir si cette association ne passe pas peut-être peut-être très loin de chez vous. Et il faut vraiment, je dirais, aller les voir, parce que dans ces temps, effectivement, de montée de racisme, d'antisémitisme ou de je sais quoi, il est plus que temps et plus que important de se rappeler qu'on est tous des humains, qu'on est fait pour être ensemble et qu'on n'est pas fait pour se faire la guerre, en fait. Voilà. La troisième...
Quand tu dis contacter l'association qui passe dans les régions, ça veut dire que ça va être une exposition itinérante ?
Ben, apparemment, ils font des événements dans d'autres endroits en France. D'accord. Donc, soit l'exposition est itinérante, soit ils créent des expositions dans les lieux, dans d'autres lieux en France. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas les rater. Et déjà, il ne faut pas les rater. Pour tous ceux qui vivent à Paris, allez voir les expositions, parce qu'elles sont vraiment, magnifiques et elles nous ouvrent. Enfin, moi, ça m'a fait ça. Elle nous ouvre, l'avenir et puis un champ géographique tellement vaste que ça fait du bien aussi. Hein, voilà. La troisième exposition, elle s'appelle Past Disquiet ou Passé Inquiet. C'est une exposition documentaire qui retrace des histoires d'engagement d'artistes ainsi que 4 cas de musées solidaires au mouvement international anti-impérialiste des années 1960-1980. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup non plus, et c'est quand même assez extraordinaire de voir ça au Palais de Tokyo, quoi, en fait. Hein.
Fruit d'une sur les périodes anticolonialistes
Des années 60 à 80.
Donc ça, d'accord. Ça, enfin, juste une parenthèse, si je peux me permettre.
Oui, tu peux te permettre.
Tout à fait le thème du livre du Somme 17,
c'est ça.
Une lune très petite, qui relate les luttes anticoloniales des années 50-60.
C'est ça. En passant par Frantz Fanon et tout ça, quoi. Fruit d'une recherche démarrée en 2008 par les chercheuses et curatrices. Alors, j'ai appris que curatrice, c'est pas qu'au niveau du secteur social. Moi, je connaissais surtout ça. Mais en fait, ce sont des commissaires d'exposition, les curateurs et curatrices aussi. Donc, les chercheuses et curatrices Christine Coury et Racha Salti. Cette exposition a pour point de départ les récits oubliés de musées en exil ou musées de solidarité transcontinentaux, souvent conçus comme des expositions itinérantes qui ont incarné le soutien d'artistes à des luttes d'émancipation du peuple, notamment en Palestine, au Nicaragua, au Chili et en Afrique du Sud. Face au manque d'archives institutionnelles, parce que bien évidemment, hein, ça n'a pas été trop collecté, tout ça, ces deux chercheuses ont exploité des archives privées et ont aussi créé des archives orales en enregistrant et filmant une cinquantaine d'entretiens avec des personnes impliquées. Les documents réunis au fil des voyages qu'elles ont faits en Jordanie, Syrie, Maroc, Égypte, Italie, France, Suède, Allemagne, Pologne, Hongrie, Afrique du Sud et Japon dessinent des réseaux croisés liant artistes, militants et militantes et collectifs autour d'interventions, de manifestations, d'expositions et de collections extraordinaires qui ont voyagé dans le monde. L'exposition Passé Inquiet, je préfère dire en français, offre un témoignage de ces artistes pour une cause politique, aussi bien que du caractère subversif de leur pratique artistique. On continue ensuite avec la quatrième exposition qui s'appelle « Le toucher l'insensé ». Là, on rentre en fait dans la psychothérapie institutionnelle. Donc, on voit bien quand même que le Palais de Tokyo a organisé 16 expositions sur ce qu'on peut appeler les déviances, les gens un peu qui ne sont pas comme tout le monde, dont font partie d'ailleurs les artistes, quels qu'ils soient, hein, écrivains ou peintres, mais qui sont en même temps tous ces gens porteurs de vie et porteurs d'avenir. Hein. Donc la psychothérapie institutionnelle est une pratique de la psychiatrie dont le fondement est que pour soigner les malades, il faut déjà soigner l'hôpital. Autrement dit, ne jamais isoler le trouble mental de son contexte social et institutionnel, ce qu'on a quand même beaucoup battu en brèche dans la psychiatrie actuelle. Inspiré par ces expériences qui s'appuient souvent sur la création artistique, cette exposition s'articule autour de la parole de praticiens, de la psychothérapie institutionnelle comme François Toquet, Jean Houry et Félix Guattari. Voilà, toutes ces périodes qu'on a pu connaître et dont on parle aujourd'hui tellement et tellement peu. Voilà. L'exposition recueille dans les films de Jean Pin des artistes, mais aussi des soignants et soignantes, des éducateurs et éducatrices qui ont initié des pratiques artistiques collectives dans divers établissements liés à la santé mentale, hôpitaux psychiatriques, centres d'accueil, instituts médico-éducatifs, classe Ulysse. Alors je vais aller voir ce que c'était parce que moi je connais pas bien ça. C'est ULIS, ce sont ces unités qui permettent à de petits groupes d'élèves en situation de handicap de mettre en œuvre des projets personnalisés de scolarisation dans une configuration collective. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais enfin ça existe quand même. Ces expériences hier et d'aujourd'hui, en France et ailleurs, montrent comment l'art est un outil d'émancipation, une forme d'être ensemble et l'expression d'une poésie vitale. Donc bien sûr, l'exposition repose sur des dessins, des graphiques, mais aussi beaucoup de textes, de littérature en fait, d'écrits, de poèmes. Cette exposition suggère également que la psychothérapie institutionnelle, si elle a été fondée dans le contexte de la psychiatrie, pourrait bien être un outil ou tout au moins une manière de penser et d'agir applicable à d'autres institutions et divers champs de la vie sociale pour transformer les lieux de relégation en refuge. Et je pense que c'est des pratiques aussi qui ont lieu ou qui ont eu lieu dans les prisons ou dans tous les endroits où effectivement les gens sont mis de côté pour X ou Y raison et où il y a beaucoup aussi de manifestations de littérature et de peinture où il y a des associations hein, de prisonniers qui en fait font connaître leurs textes et leurs tableaux. Voilà. Donc peut-être, je sais pas, je me dis qu'on pourrait aussi s'intéresser à ça. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que je vais vous lire rapidement. Il y a en fait, il parle parce que le musée de Tokyo, qui est quand même assez extraordinaire, a réussi à sortir des archives qui n'ont jamais été ni publiées ni montrées. Et qui émane du centre familial de jeunes, le CFDJ, qui a été dès le début des années 50 un lieu de banlieue parisienne d'accueil et de soins pour des groupes d'une vingtaine d'adolescents en difficulté placés par des juges pour enfants comme alternative aux maisons de correction. Situé d'abord à Vitry-sur-Seine, ce foyer de semi-liberté s'est reconstitué en 1983 au Plessis-Trévise avant de fermer définitivement ses portes en 1992. Les archives pléthoriques du CFDJ, c'est vrai qu'il y en a plein, les murs au palais de Tokyo, conservés notamment au Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, le CNC, n'ont jamais fait l'objet d'une présentation publique jusqu'à présent. Donc, et elles sont dans l'exposition Toucher l'insensé au palais de Tokyo. C'est un éducateur, Joe Finder, qui en est rapidement devenu le directeur et qui, avec le psychiatre Stanislav Tomdevich, a développé pour les groupes successifs de jeunes de nombreuses activités alliant créativité et sociabilité. Donc c'est vraiment une... Enfin, il faut vraiment aller au palais de Tokyo, là, en ce moment, voir tout ça, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Alors, je vais continuer et finir avec la dernière exposition, qui est de Chloé Bensahel, qui est une artiste franco-américaine qui mêle performance, tissage et multimédia pour mettre en lumière la relation entre langage et identité. Tout en se perfectionnant dans la technique traditionnelle de tapisserie française, c'est-à-dire le tissage manuel sur base lisse, elle y insère une nouvelle dimension permettant à la matière tissée, lorsqu'elle est touchée, de s'activer par le son, la lumière ou tout autre appareil connecté. Voilà. Donc voilà tout plein d'artistes, voilà tout plein de textes, voilà tout plein de poésie, de photos, de peintures, de sculptures, de recherches qui émanent de tous ces artistes en fait qui portent la vie, qui portent l'espoir, qui luttent voilà contre l'enfermement pour préserver leur identité. Alors il y a un autre, il y a dans cette veine-là, il y a l'Institut du monde arabe hein, qui porte le musée de la Palestine, qui bien évidemment ne peut pas avoir lieu et être créé en Palestine, et qui porte en fait une partie de l'IMA est réservée à la Palestine. Il y a alors je parle de la Palestine comme je pourrais parler d'autres pays, mais il y a quand même des musées, et à Paris on a la chance de pouvoir aller voir tous ces musées facilement, qui sont ouvert effectivement à d'autres artistes, à d'autres pays, à d'autres pratiques, voilà. Et qui, je pense, rejoignent tout à fait les préoccupations du Klops et de Fragments.
En effet, parce que bon, merci Michel pour ce panorama, en fait, qui est un peu internationaliste, sans connaissance des frontières, quoi.
C'est ça.
Et en même temps, bon, un thème qui est moins abordé aussi d'habitude ou de manière marginale, c'est la place des gens dits différents.
C'est ça.
Déviance, je pense que c'est existé, pratiquement. Mais bon, je crois qu'il y a encore, ça vient de finir au musée d'Orsay, Van Gogh. Il est lui aussi passé par la case.
Oui, des millions de gens, oui, c'est ça.
Il y a Artaud, qui a, du côté de Rodez, connu aussi cette case. Donc, la création, le rapport à la différence, la question de qu'est-ce que c'est que la folie. Ça,
j'ai dit déviant parce que c'est le terme utilisé
institutionnellement.
Institutionnellement.
Oui, parce que, bon,
voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans ces périodes où certains vont en guerre, veulent absolument nous remettre, voilà, prendre les armes et voilà. Je pense qu'effectivement, il faut pas oublier que l'humanité a toujours marcher a toujours, c'est toujours déplacé et toujours aller dans toutes les contrées de la terre qui nous appartient à tous en fait, et justement pour porter la vie, pour porter des cultures différentes, pour porter des savoir-faire différents aussi. Dans ces expositions, on voit des matériaux, on voit beaucoup de textiles, on voit beaucoup de bricolage. Bon, ça rappelle aussi beaucoup le lard brut dont on a déjà bien parlé ici et dont on continuera à parler. Donc c'est tout ça, je pense, aujourd'hui qu'il faut pas oublier, qu'il faut porter chacun d'entre nous. C'est pas relégué dans un coin, voilà. Tous ces gens sont vivants, les musées sont ouverts, et il faut y aller.
Très bien. Donc nous prenons acte de cette décision et injonction à fréquenter des musées. Alors, même s'il y a aussi d'autres formes peut-être de rapport à l'art. Bon, d'ailleurs, Ragon a travaillé sur cette question, notamment dans la place de l'art dans la société. Il a d'ailleurs écrit aussi dans la revue de la Fédération d'Archistes La Rue, qui était une revue quand même assez essentielle à un moment donné. Et voilà. Donc, moi, je vais compléter un certain nombre de petites informations. Tout d'abord, j'ai parlé du colloque Michel Ragon. Ce colloque, qui aura lieu les 8 et 9 juin, sera suivi d'un numéro spécial de Fragments consacré à cet auteur. Donc, il y aura dedans notamment des contributions qui seront présentées au cours du colloque, mais aussi des contributions qu'on peut nous envoyer. Donc, si vous avez un intérêt pour Michel Ragon, si vous avez travaillé telle ou telle question, vous pouvez nous adresser des contributions directement, soit à l'adresse de l'émission que j'ai donnée tout à l'heure, et pourtant elle existe, cette littérature, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, et ou nous contacter par internet. Hein. On a aussi un nouveau blog hein, qui s'appelle fragmentsclops.com, hein, qui a été refait là, c'est tout chaud, ça vient de sortir et c'est vraiment enfin les échos hein, que nous en avons de l'extérieur et en interne, c'est un accès plus varié, plus facile, disons, plus ludique presque, avec différents espaces. Et voilà, donc ça, on peut aussi nous contacter par ce biais-là. On a aussi une rubrique librairie à cet endroit-là, un recensement des 8 numéros que nous avons publiés, de fragments. D'ailleurs, par rapport à fragments, je vais revenir rapidement sur le sommaire du dernier numéro que vous pouvez trouver à Publico et dans d'autres librairies hors de la région parisienne, hein, bien sûr. Et c'est un numéro de 144 pages hein, qui est assez volumineux, mais qui contient un dossier important consacré à Éric Louis, et j'espère que nous l'aurons dans le cadre de cette émission, hein, avec un entretien avec lui, des extraits de ce qu'il a fait. Je le rappelle, il a été 17 ans cordiste hein, dans des silos qui font le travail de la betterave pour le sucre, etc., des conditions où parfois la mort, l'accident du travail est au rendez-vous. Un dossier vraiment intense. La suite naturellement des lectures prolétariennes de Philippe Jeunesse de 1970 à 2020. Une rubrique qui s'intéresse un texte qui s'intéresse à l'hôpital hein, Respirer, ne respirez plus de Julia Billet. Les textes de Franck Thiriot qui poursuivent un peu l'itinéraire d'un titi parisien. Des poèmes de Tessie Rome, Piano Birakem, pardon, et des nouvelles signatures comme celle de Yvan Roberech, dont une suite d'ailleurs sera proposée dans le numéro 9. Une étude de Thierry Maricourt, consacrée à l'écrivain suédois Stig Dagerman, écrivain prolétarien. Point d'interrogation. Et voilà. J'ai oublié l'été de mes 20 ans de Florence, qui est aussi animatrice sur les ondes de Radio Libertaire. Alors, voilà pour ce copieux numéro. Donc, je rappelle, des contributions, si vous souhaitez, sur Michel Ragon. Un numéro dans le futur qui sera avec un gros dossier sur Panaïs Istrati, là aussi vous pouvez nous envoyer des propositions, on a déjà pas mal de choses, mais il nous semble important de mettre l'accent sur cet écrivain. Et un numéro ensuite où il y aura un dossier important sur les paysans et les paysannes dans la littérature prolétarienne. Il y a pas mal de choses à faire de ce point de vue-là. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué les livres qu'on pouvait nous commander. Hein. Je rappelle aussi une adresse directe, hein, c'est le club CCLOPS, 79 rue du Docteur Roux, 95 130, Franconville-Lagarenne. Alors les deux bouquins que je voulais rajouter sont de l'invité que nous avions la dernière fois, Giuseppe Locatelli, Pièce détachée, hein, qui est édition La Passe du Vent, et Giuseppe Locatelli et Horace Papal, Nous transporter, qui regroupe des textes de Giuseppe Locatelli et des photographies de Horace Papal dans la ville de Lyon et sa banlieue. Donc là, je crois que j'ai à peu près tout dit. Un prochain numéro, donc, voilà, je vous l'ai dit, fragmentsclops.com, le nouveau blog. On peut nous contacter aussi sur Facebook maintenant. On a une entrée, même si un certain nombre d'entre nous n'y sont pas. Il y a quand même un réseau qui nous permet d'avoir de nouveaux retours et de nouveaux contacts, notamment de nouveaux abonnés et de nouveaux contributeurs. Voilà, alors je crois que nous en avons terminé pour l'essentiel de cette journée. Donc, on a écouté Radio Libertaire, on a écouté, pardon, tout à l'heure, Duke Ellington. Alors, nous allons, pour conclure cette émission du 21 mars, nous allons faire un retour, non pas dans le futur, mais dans le passé, avec Bridge Over Troubled Water de Simon and Garfunkel. Au revoir et donc rendez-vous au troisième jeudi, 16h30, 18h du mois d'avril. Voilà, nous vous remercions à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître, ni nationalité.
Shine, oh, if you need. Sans province mais libre, il gouverne un pays de cordes et de toiles. Entre l'amour et lui, il a hissé la voile. La femme qui l'attend ne pleure plus depuis longtemps. Elle est sans le savoir l'ennemi très cher, la gardienne sans nom de liquide frontière. La femme qui attend le glas de l'homme qu'on n'enterre pas, mais qui lui a parlé un jour furtivement d'amour. Il ne rentrera pas ce soir, celui qui n'aime que la mer et que la femme attend. Sur le bientôt logis de la porte fermée, celle qui mesure son pas reconnaît la marée. Leurs corps n'ont plus le même sel, la même rive. Elle n'ose plus le retenir quand il s'esquive pour marchander au vent. Le goût d'autres salives. Il reprendra son chemin d'eau, celui qui n'aime que la mer et que la femme attend. C'est un fou qui lui ment quand il parle du vent. Il ne raconte rien, il n'écrit pas souvent. Ses rendez-vous avec la mer, c'est son roman. Il échange le port pour un rêve de toile. Entre la mort et lui, il a hissé la voile. La femme qui l'attend ne pleure plus depuis longtemps. Elle est sans le savoir l'ennemi très cher, la gardienne sans nom de liquide frontière. La femme qui attend le glas de l'homme qu'on n'enterre pas, mais qui lui a parlé un jour furtivement.
Bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous revenons une fois de plus dans notre émission sur le conflit israélo-palestinien et plus spécialement sur le massacre des Palestiniens à Gaza. Nous serons dans cette émission avec Sophie Bessis. Sophie Bessis est historienne, ancienne rédactrice en chef de l'hebdomadaire Jeune Afrique, ancienne chercheuse associée à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques IRIS de Paris 3, et elle est aussi secrétaire adjointe de la Fédération Internationale pour les Droits Humains. Elle a été invitée par les Amis du Monde Diplomatique de Rennes le 5 mars 2024 pour nous parler de la Palestine, car elle avait publié un article dans Le Monde Diplomatique, donc, qui avait pour titre « Peur croisée et instrumentalisation de la mémoire ». Cet article a été publié dans Le Monde Diplomatique de décembre 2023, écrit donc en novembre 2023, et bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses depuis. L'article était introduit par le texte suivant. À la crainte de la résurgence d'une judéophobie violente, fait face celle d'une répétition de la Nakba de 1948. Si la prise en compte de ces deux angoisses est nécessaire pour penser la paix, il convient de ne pas oublier que dans cette guerre, les Palestiniens sont les plus faibles et les moins bien protégés. Sophie Bessis écrit au début de son article « On a beaucoup cité la haine. C'est souvent la peur qui l'engendre. Des deux côtés, israéliens comme palestiniens, la seconde, plus que la première, structure les mémoires collectives et leurs récits. » Sophie Bessis est issue d'une famille de la bourgeoisie juive tunisienne. Elle est donc franco-tunisienne et elle analyse la guerre israélo-palestinienne avec beaucoup de discernement. Alors, nous l'écoutons.
Je parlerai d'abord effectivement très brièvement, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire de la naissance du sionisme, qui est effectivement cette naissance du sionisme dans les années 1880 en Europe a deux caractéristiques. L'une, elle est effectivement la conséquence de la